Eh bien, dis donc, il y a la forme, hein. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir d'être accueilli dans son bonjour, dans sa salutation. Ah, que c'est beau, que c'est bon des cultes avec baptême. Ça nous replonge tous pour celles et ceux qui l'ont vécu, chacun dans sa propre histoire particulière. Pour ma part, c'était le 8 janvier 1995. Oui, c'était le siècle dernier. Et alors, nous étions 150 à être baptisés ce jour-là. Oui, il faut dire que l'église comptait plus de 1500 membres. Il y avait 4 pasteurs dans le baptistère. Et on chantait à tue-tête, « Jésus, par ton sang précieux, tu as lavé mon iniquité. » Puis on chantait « Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. » Je me disais, mais c'est quoi la neige? Je n'avais pas encore vu la neige. Et un jour, mes yeux ont vu la neige. Quand je suis venu en France, j'étais étudiant à Nogent-sur-Marne et on nous a envoyé une semaine dans les églises du côté de Colmar. C'était l'hiver et là j'ai vu dans un sous-bois une neige immaculée où personne n'avait encore mis son pied avec cette belle lumière qui s'y reflétait. Et j'ai dit, c'est ça être blanc, plus blanc que neige, c'est extraordinaire. Alors ce qu'on appelle les blancs, regardez comme la neige est blanche. Et moi j'avais que comme blancheur écarlate l'intérieur d'une noix de coco. Quand elle est bonne, parce que la noix de coco, parfois, quand elle n'est pas bonne, hein, vous savez ici, hein, ce que vous avez comme noix de coco, hein, je ne sais pas quand on les a cueillies, mais en général, c'est comme les avocats, un sur deux, il faut jeter. Hein. Bref, vous voyez, le baptême, ça nous amène toujours à nous souvenir. Et je me réjouis pour Gabriel et pour David qui ont fait ce chemin. Pardon, je voudrais encore vous partager une anecdote pour introduire ce message, parce que la question que nous allons nous poser, ou que j'aimerais vous poser, c'est à qui appartenez-vous? À qui appartenez-vous? C'est quel est votre cercle d'appartenance? Et qu'est-ce que vous avez dû faire pour appartenir? Peut-être que vous faites partie d'un club sportif, et peut-être que vous avez fait une démarche, vous avez payé votre licence, vous avez une carte, une affiliation. Et vous êtes membre du club de tennis, ou de handball, ou de volley, ou de belote, ou de pétanque, que sais-je. Peut-être que vous avez décidé d'adhérer à la FNAC, et qu'ils disent, mais c'est un adhérent. Vous avez adhéré, vous appartenez à la communauté des adhérents de la FNAC. Peut-être que c'est simplement votre supermarché, Lidl, Carrefour, Leclerc, que sais-je encore, Aldi, Netto. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein, donc, Carrefour Market... La foirefouille, bon voilà, j'en passe. Casto, le roi Merlin, les Suédois, là, Ikea. Bon, bref, peu importe. Peut-être que vous n'avez même plus de place dans votre portefeuille pour mettre ces cartes qui disent « J'appartiens à la communauté de ce magasin, de ce commerce ». Nous avons besoin d'appartenance. Nous avons besoin de nous sentir appartenir à. Que tu le veuilles ou non, c'est un donné anthropologique. Tu n'es pas self-made, contrairement aux belles histoires qu'on nous raconte à la télévision, self-made. Je me suis fait moi seul. Quel mensonge de l'illusion de la toute-puissance. Quel mensonge qui te laisserait croire qu'on peut se faire tout seul dans la vie. Tu appartiens. Parce que être un homme, une femme, un être humain, c'est s'insérer dans une généalogie. Christophe nous a rappelé celle, par exemple, d'Abraham. C'est être membre d'une famille. Dieu t'a donné les parents que tu as eus. Parfois c'est difficile, mais tu as une ascendance. Tu appartiens. Et pour toujours, tu seras défini comme fils de, fille de. Peut-être même tu ne connais pas celui qui a été ton géniteur, comme on dit aujourd'hui. Mais tu es fils de, fille de. Peut-être par la biologie, mais la Bible nous montre qu'il n'y a pas que la voie biologique. Peut-être par l'adoption de cœur. peut-être par l'adoption plénière de type juridique, entraînant une nouvelle filiation. Tu appartiens, que tu le veuilles ou pas, à l'histoire de cette humanité. Tu appartiens à une communauté. Mais peut-être tu te dis, où est-ce qu'il veut en venir ? Je veux en venir au fait qu'être membre d'une église, cheminer et demander le baptême, c'est vouloir appartenir. C'est choisir d'appartenir, mais pas à une association humaine, pas à un club, pas à une secte, à une nouvelle communauté, à une nouvelle société, à une nouvelle humanité qui est en train de se former. Et c'est Dieu lui-même, nous le verrons, qui est en train de la former. Veux-tu y appartenir ? Quand je suis arrivé en France, en 2003, il y a donc déjà 21 ans, comme jeune étudiant reprenant mes études après le droit, reprenant des études de théologie, j'avais une carte de séjour renouvelable tous les ans. Et quand on dit tous les ans, il faut recommencer les démarches souvent 6 mois avant. Parce que vous connaissez toutes les problématiques de la rapidité, de la célérité administrative. Nous, on est champions du monde. Vous faites votre demande et tout de suite, vous l'avez. J'aime dire ça parce que mes amis et frères et sœurs qui n'ont pas fait la même démarche ne savent pas le long cheminement que cela représente pour celles et ceux qui choisissent de venir dans ce pays. Moi, j'ai choisi. Mais c'est encore pire quand on ne l'a pas choisi, quand on vient parce qu'on fuit un pays ou parce qu'on vient chercher refuge. C'est encore pire. Mais moi, j'avais choisi la France. Mes frères, mon grand frère et ma grande sœur avaient choisi l'Allemagne. Et moi, j'ai dit non, je ne vais pas perdre 2 ans à prendre le Deutsch. Je parle déjà français, moi, je vais en France. Et pendant au moins 10 ans, même 12, j'ai dû faire une demande administrative chaque année pour que mon statut et mon séjour me soient renouvelés. Et pendant tout ce temps, je me suis politisé, je me suis intéressé à la vie des communes, à la vie de ce pays, à son histoire. J'ai voulu appartenir. Et je ne pouvais même pas voter pour désigner le maire de ma commune. Parce que je n'appartenais pas à la communauté nationale. Parce que pour appartenir à la communauté nationale, il faut être naturalisé. Et pour être naturalisé, il faut faire beaucoup de papiers. Je félicite mon épouse qui avait pris ce défi à bras le corps. Et la taille des papiers dépasse la taille de certaines thèses. Et ça prend des années. Et quelle joie quand le décret de naturalisation est sorti. Quel honneur, quelle fierté du parcours accompli d'être reçu dans la maison en France, en préfecture d'Isère, qui avait convié tous les élus de chaque commune représentée, accueillis dans les beaux salons dorés de cette préfecture, où pendant des années je suis resté dehors sous le soleil et la pluie. Et là, parce que j'appartenais dorénavant à la communauté nationale, j'étais introduit dans le plus beau salon de la préfecture, présidé par le préfet, représentant de l'État, du chef de la République. Et nous nous voyons remettre nos certificats de naturalisation et toute la documentation. Et je me suis promis dès lors de ne jamais louper une élection, quelle qu'elle soit. Vous pouvez en faire 10, je vais toujours aller voter. Parce que pendant longtemps, j'ai rêvé d'appartenir et de donner mon mot. Et quelqu'un a chanté « On ira tous au paradis ». Est-ce que tu appartiens ? Moi, je voudrais bien vous faire cette promesse, c'est bien beau. Moi, j'aimerais bien aller partout dans le monde, même avec mon passeport français. Mais ce n'est pas possible. En devenant français, j'ai perdu la nationalité de mon pays d'origine. Et j'étais il y a 1 an dans mon pays d'origine, j'ai dû demander le visa. Et nous avons dû payer de visa pour nous 6. Purée, c'est quand même plus de 200 euros par personne. Maman, s'il te plaît, tu peux m'inviter pour que je revienne à la maison ? Parce que je n'appartiens plus. Mon pays ne me reconnaît plus comme citoyen, il m'accueille. Mais je n'appartiens plus à cette communauté. Veux-tu appartenir à Jésus-Christ ? Veux-tu faire partie du peuple de Dieu ? Veux-tu faire partie de la famille de Dieu? Veux-tu embarquer pour cette destination? Pour cette nouvelle vie, veux-tu rejoindre cette nouvelle humanité? Gabriel et David ont choisi d'embarquer. Ils ont choisi de faire partie de l'histoire de Jésus-Christ. Et tu peux faire ce choix ce matin. Je voudrais lire le texte de quelqu'un qui a été baptisé comme eux et quelqu'un qui était africain comme moi. Puisque nous sommes en ce moment dans le livre des Actes des Apôtres, nous arrivons au chapitre 8 et je voudrais dire quelques mots. Mais s'il y avait une chose à retenir, je veux que tu retiennes ce matin que tu n'as pas besoin de faire une tonne de papier, que tu n'as pas besoin de raconter toute ton histoire, il la connaît déjà, que tu n'as pas besoin d'avoir une carte d'adhérent, que tu n'as pas besoin d'argent pour appartenir, que tu as juste besoin d'humilité, tu as juste besoin de reconnaître que tu appartiens, que tu le veuilles ou pas, à une histoire humaine. Tu appartiens à Dieu, que tu le veuilles ou pas. Je veux juste que tu retiennes que ce matin, Dieu te dit, tu peux revenir dans la famille. Parce que la Bible dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Quelle que soit ta famille, quel que soit le nom qu'on lui donne sociologiquement, toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Tu as une filiation que tu ne connais peut-être pas. Tu as un tonton que tu ne connais peut-être pas. Tu as un grand-père que tu ne connais peut-être pas. Oui, grand-père Abraham, c'est notre histoire. Ce n'est pas juste pour les autres. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question d'appartenir à une autre tribu. Tous ceux dont la Bible nous parle et qui ont suivi Dieu font partie de ma généalogie. Il y a des histoires douloureuses dans la Bible. Il y a des histoires honteuses. On n'aimerait pas appartenir à certaines personnes dans la Bible. Mais c'est l'humanité telle qu'elle est. On n'aimerait pas appartenir à ceux de Sodome et Gomorre. On n'aimerait pas appartenir à ceux qui ont tourné le dos à Dieu. Mais on ne peut pas vivre sans choisir. Et ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Alors ce matin, je vais lire avec toi juste l'histoire d'une rencontre. C'est dans Actes chapitre 8, verset 26 et suivant. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Philippe se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu, oh merci beaucoup, à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Il lisait ce passage du prophète Ésaïe qui parle du Christ. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire se cria, « Voici de l'eau !» Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Oh, est-ce la question d'un cœur ce matin? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et là, dans certaines versions, vous avez le verset 37 avec des crochets, juste pour signaler que ce verset n'est pas dans les manuscrits les plus fiables, mais n'a rien de contraire à la pensée de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le verset 37. Et dans certaines versions, vous n'avez pas ce verset 37 parce que les éditeurs ont fait le choix de l'enlever puisqu'il n'est pas attesté dans les meilleurs manuscrits. Vous voyez, la Bible, ce n'est pas quand même n'importe quoi non plus. Alors, on passe au verset 38. Aussitôt, il donna l'ordre, l'eunuque éthiopien, d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, l'Éthiopien, le cœur rempli de joie. Et Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée, en annonçant l'évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Dieu cherche des hommes et des femmes qui humblement veulent lui appartenir. Et la première chose que vous pouvez voir dans ce texte, du moins, c'est que ce n'est pas Philippe qui est l'acteur principal, mais c'est Dieu lui-même. Et nous l'avons chanté. J'étais brisé, tu es venu, tu m'as trouvé. Dieu veut te trouver ce matin, qui que tu sois et où que tu sois. Et dans ce texte, je voudrais souligner cette initiative que Dieu prend. Un ange du Seigneur. Ce n'est pas Philippe qui s'est dit, tiens, je vais faire quelque chose. Non, ça commence par l'initiative de Dieu. Un ange, angelos, c'est le messager, c'est l'envoyé. Et la Bible nous parle du rôle de ces créatures célestes qui nous intriguent dans le plan de Dieu. Souvenez quand Dieu voulait parler à Marie, la Vierge Marie, il lui envoyait un ange du Seigneur. Quand il a voulu parler à Joseph qui ne comprenait pas ce qui se passait et qui avait besoin d'aide, il lui envoyait l'ange du Seigneur. Et ici, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous dit « un ange du Seigneur ». Et ce n'est pas la première fois que Philippe parle de l'ange du Seigneur. C'est un envoyé de Dieu. Alors le texte ne nous dit pas comment il était, comment Philippe l'a reconnu, comment Philippe l'a entendu. Ce n'est pas ça le principal du texte. Le texte veut nous montrer que c'est Dieu qui cherche chacun de nous. L'ange du Seigneur était déjà intervenu quand on avait jeté Pierre et Jean en prison dans Actes chapitre 5, verset 19. Ils étaient en prison, on voulait leur empêcher de parler de ce beau message. Et là, dans la prison, l'ange est venu, l'ange l'a déchaîné et il l'a fait sortir de prison. Parce qu'on ne gagne jamais contre le Seigneur. On ne gagne jamais contre le Seigneur. On ne gagne pas contre Dieu. Et c'est cet ange du Seigneur qui va aussi intervenir au chapitre 12 pour libérer les apôtres une seconde fois et même pour frapper Hérode dans son orgueil. Le texte dit, puisqu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Quel privilège de savoir que Dieu m'aime tellement qu'il considère que j'ai plus de valeur à ses yeux, qu'il est capable d'envoyer un ange, même si je ne le vois pas, pour attirer mon cœur à lui. Quel mystère! Ne croyez pas que tous les matins en se levant, moi l'ange du Seigneur vient dire à Polyphona, lève-toi, prends la route qui va au carreau de l'âne et au saut du lièvre, il y a l'église, serre-la. Non! Ce n'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Mais les voies du Seigneur sont diverses et impénétrables. Mais ce qui est sûr, c'est que Philippe pouvait reconnaître l'initiative de Dieu. Et c'est encore l'ange du Seigneur, mais cette fois-ci c'est l'Esprit d'ailleurs, pour montrer encore comment c'est le Seigneur qui prend l'initiative, qui dit « j'ai vu quelqu'un, je veux le rejoindre parce que son cœur me cherche, je veux qu'il appartienne ». Et lui dit, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, cette route déserte, ou alors Gaza la déserte. Il y a deux leçons dans les commentaires. Certains disent, c'est la ville qui était déserte parce qu'elle avait été détruite par les Romains au début de la guerre juive. D'autres disent, non, ce n'est pas la ville qui était déserte, c'est qu'il y avait deux chemins pour aller à Gaza. Et il y avait une voie ancienne qui n'était plus empruntée, peut-être parce qu'elle était devenue trop dangereuse. Les gens se faisaient dépouiller, agresser. Et très peu de personnes empruntaient cette route, préférant passer par la mer. Et c'est donc la route déserte, c'est-à-dire moins empruntée. Et c'est l'Esprit qui met Philippe sur le chemin de ce qu'on peut appeler vraiment une rencontre providentielle. C'est l'Esprit qui lui dit « marche à côté ». Il marche, il court, et quand il arrive à proximité, là il entend un homme qui lit le manuscrit d'Ésaïe, qui lit la Bible, la Torah. Il reconnaît le passage et il comprend que Dieu veut rencontrer cet homme. Que Dieu a pris l'initiative de lui dire « cet homme aussi doit appartenir ». Ce qui me frappe avec Philippe, c'est non seulement qu'il avait la capacité de comprendre et d'entendre la voix de Dieu, et nous tous, nous pouvons l'entendre aujourd'hui par le témoignage de la Bible en particulier. Mais souvent aussi, l'Esprit nous met des intuitions fortes. Et souvent, il nous parle par un voisin. Et vous savez quoi? Pour vous chrétiens, il peut même nous parler par un non-chrétien. Il peut même nous parler par l'âne, comme il a parlé à Balaam. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais pour appartenir à Dieu, Dieu prend l'initiative et encore faut-il accepter cette initiative. Et on a besoin des hommes et des femmes qui acceptent comme Philippe de se laisser surprendre. Philippe était obéissant au Seigneur. L'ange lui dit, lève-toi, prends la route déserte. Il ne dit pas quoi, comment ça, la route déserte, c'est quoi l'objectif? Je n'ai rencontré personne, elle est dangereuse. Non, il ne s'arrête pas à des faux raisonnements. Il ne trouve pas des fausses excuses pour se défiler. Il se laisse utiliser simplement. Il y a tellement de rencontres que nous loupons. Nous passons à côté de certains rendez-vous préparés par Dieu, tout simplement parce que nous avons des schémas stéréotypés dans nos têtes. Nous pensons qu'il doit toujours faire comme ça. Et souvent, nous pensons qu'il doit faire comme moi je l'ai expérimenté. Nous pensons que notre expérience, notre histoire, c'est le bon modèle, le bon paradigme. Mais non. Dieu est libre et souverain. Il peut faire autrement. Et Philippe se laisse déplacer autrement. Et c'est quelque chose de surprenant parce qu'il lui dit, prends la route déserte. La route déserte. Et peut-être que toi, tu es sur ce chemin désert. Sur ce chemin aride, sur ce chemin de solitude, sur ce chemin où peut-être tu attends juste. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un me rencontrera? Est-ce qu'aujourd'hui je comprendrai enfin et je découvrirai le sens de ma vie? Parce que là, sur ce chemin désert, il y avait un homme. Et Luc le définit et le décrit par quatre caractères d'appartenance. Premièrement, nous apprenons son appartenance ethnique. Luc dit que c'était un Éthiopien, Aïtiopos en grec, celui qui a le visage brûlé. La Bible nous parle des Éthiopiens ou des Cushites, qui sont les descendants de l'un des fils de Noé, Cham. Le fameux Cham dont l'un des fils avait découvert la nudité de Noé, et il a été maudit. Et dans l'histoire, malheureusement, des interprétations ont dit, ben, vous voyez, les Africains sont les descendants de Cham, ils sont maudits. En 2007, quand Barack Obama est devenu président des États-Unis pour la première fois, quelqu'un m'a téléphoné depuis le Cameroun. Pasteur! Pasteur! Alléluia! Ok, pourquoi? J'ai rien fait.
La malédiction est tombée, enfin!
Ah bon? Quelle malédiction?
Enfin, un noir est président de la première puissance mondiale!
Je dis, ben, et puis quoi? Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Il n'est même pas au courant de ce passage de la Bible. Il n'a pas déposé sa candidature sur la base de ça. Il y a cet imaginaire. Ici, on nous dit, voilà un Africain. Le premier païen, le premier non-juif, dehors de Jérusalem, qui entre dans la famille de Dieu, mes amis, est un noir. Eh oui! Eh oui! Eh oui! Le premier non-juif, c'est lui, dans le témoignage de Luc en Actes. C'est un Éthiopien. Première appartenance. Mais Dieu ne regarde pas à ces questions ethniques, il regarde au cœur. C'était un cœur d'un homme qui venait de très loin, jusqu'à Jérusalem en pèlerinage religieux. Encore aujourd'hui, je vois des gens qui quittent de très loin l'Afrique pour aller faire un pèlerinage en Terre Sainte. Certaines viennent à Lourdes, etc., etc. Les gens cherchent Dieu. Et même les évangéliques ont leur propre pèlerinage. Tous veulent aller à MLK, voir en pèlerinage. Ils vont au Canada, ils vont à EMCI. Voilà, c'est le pèlerinage. On a nos lieux de pèlerinage. On cherche là où Dieu s'est manifesté d'une manière extraordinaire. On dit, waouh, c'est ça, ici je sens Dieu. La deuxième chose, c'est son appartenance sociale. Dieu ne s'arrête pas à son appartenance sociale. On nous dit que cet homme était un eunuque. Dans le grec, et on traduit en français, un haut dignitaire. Il était haut placé dans la société. Il y a des gens qui croient que les gens qui vont dans les églises ou qui décident de devenir chrétiens sont des gens qui ont raté leur vie. Ce sont des gens qui sont faibles, qui ont besoin de s'appuyer sur le mystère. On pense que l'église est un peuple de losers. Mais ce premier Africain était un haut officier, un haut gradé, qui appartenait à l'état-major de Candace. La reine, c'est un nom générique comme Pharaon, pour dire la reine d'Éthiopie. Et pourtant, Dieu a vu l'humilité de son cœur. Et peut-être que tu es là ce matin, les épaules bien droites, moi je suis un peu voûté, et peut-être que tu bombes le torse depuis des années, et tu te dis, c'est pas pour moi, je ne craquerai pas. Mais tu n'as pas besoin de craquer. Mais tu n'as pas besoin non plus de bomber le torse artificiellement. Dieu ne s'arrête pas à ton statut. Philippe n'avait pas le même statut que cet homme. Et pourtant, Dieu a utilisé un moyen humble pour amener peut-être ce général qui avait beaucoup d'argent au point où il pouvait se permettre d'être escorté et d'avoir même un manuscrit. C'était rare à l'époque. Deuxième appartenance, Dieu enjambe cette appartenance. Pourquoi ? Parce que nous risquons toujours de faire de nos appartenances des frontières ou des barrières. Dieu est en train de dire à Philippe, d'où qu'on vienne, je ne veux pas que l'appartenance ethnique soit une barrière, une frontière. On peut venir d'Éthiopie et on fait partie de la famille. Je ne veux pas que le statut social soit une barrière. On peut être demandeur d'emploi, chercheur, smicard, chef d'entreprise, millionnaire. On appartient à la famille. Troisième appartenance, c'était son statut religieux. On nous dit que cet homme était allé à Jérusalem parce qu'il cherchait Dieu, ce qu'on appelait les prosélytes. Il avait peut-être rencontré une communauté de juifs dans la région du Soudan. Les historiens nous disent qu'il y avait une colonie de juifs par là-bas, une colonie au sens d'une cohorte qui y vivait. Et il est venu, il a fait une démarche. Pendant des années, il est venu au pèlerinage, il voulait rencontrer Dieu. Il lisait l'Écriture, il cherchait un sens à sa vie. Voilà son statut, il était chercheur de Dieu. Est-ce que tu es chercheur de Dieu ce matin? Est-ce que tu es chercheur de vie ce matin? Est-ce que tu es chercheur de sens ce matin? Et Dieu qui avait pris l'initiative et qui l'avait vu, a voulu répondre à sa quête. Troisième mouvement, Philippe se met à côté, simplement, humblement, et il entend lire. Et il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui pose la question du sens, la question, mes amis, qu'on pose à Alpha, n'est-ce pas Martine et Jean-Marie? Quel est le sens de ma vie? Et peut-être que c'est à Alpha qu'on va trouver des Philippe et des eunuques éthiopiens. Il dit, mais quel est le sens de tout ça? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Philippe ne vient pas en disant, vous savez, j'ai tout compris, hein. Je suis chrétien depuis 20 ans. Non, comprends-tu? Il le rejoint là où il en est, dans son questionnement, dans son tâtonnement. Et c'est cet homme qui lui dit, monte dans mon char. Est-ce que certains, ce matin, vont entendre cette invitation chrétien depuis des années? Dans quel char je suis monté? Est-ce que je me laisse déplacer par Dieu? Est-ce que je me laisse inviter par d'autres? Peut-être que ce matin, Dieu te dit, tu vois, cette personne-là, elle aura besoin de toi. Tiens-toi à côté. Aime-la. Manifeste-lui ta sollicitude. Pose-lui des questions sur le sens de la vie. Et peut-être qu'elle te dira, monte. Monte et aide-moi à répondre. Et chemin faisant, cet homme, humblement, va se faire enseigner. En partant de ce passage, Philippe médite profondément le mystère de Dieu. Le projet de Dieu, il comprend, il fait comprendre à cet homme que le prophète Ésaïe n'a pas parlé de lui-même, mais que le prophète Ésaïe a parlé d'un serviteur du Seigneur qui viendrait. et que ce serviteur du Seigneur, c'est Jésus. Et ce serviteur du Seigneur, il vient donner sa vie. Il se laissait faire comme un agneau innocent et sans défense. Et il a été mis à mort à la croix, injustement. Et il a souffert tout ceci pour pardonner nos péchés. Et Philippe lui dit, tu sais, c'est lui qui m'a mis ici pour te le dire. Tu le cherches? Eh bien si, tu crois de tout ton cœur qu'il est ton sauveur, ton Seigneur, eh bien tu seras sauvé. Et tu sais quoi? On ne peut pas le croire et rester planqué pour toujours. Il a dit que ceux qui croiraient en son nom se fassent aussi baptiser. Philippe lui a parlé de Jésus et lui a enseigné la doctrine du Christ qui incluait le baptême. Je veux te dire, toi qui es chrétien peut-être depuis tant d'années et qui n'est pas encore baptisé, que l'annonce de l'évangile inclut le baptême. Et je veux te dire qu'il y a des réponses à tes questions. Peut-être que ce matin tu dis, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Arrête les faux raisonnements. Le baptême n'est pas un doctorat. Le baptême n'est pas une médaille de légion d'honneur, n'est pas une récompense. Comme Fred l'a si bien dit, le baptême est un signe visible d'une réalité invisible. Tu es uni au Christ par la foi et dans ton cœur. Tu y appartiens. Alors maintenant, on va rendre ça visible. Tu vas avoir ta carte nationale d'identité. Toi, tu comprends ça quand tu es né français, tu n'as pas fait toutes les démarches et tout. Et un jour, tu as demandé ta carte d'identité, on te l'a donnée simplement, ou américain, ou polonais, ou que sais-je encore, ou portugais, peu importe. Mais bon, on est en France, je parle des Français. Je le suis devenu. Le jour que tu as ta carte pour de vrai, ça change quand même ta position sociale. Et Jésus veut te faire appartenir et que tu le dises par le baptême. Et alors la Bible dit, voyez quel amour il nous a aimés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des quand même. Nous ne sommes pas n'importe qui. J'appartiens au Seigneur. J'appartiens au Dieu créateur des cieux et de la terre. Il m'appelle mon enfant en Jésus-Christ. Il m'appelle ma fille bien-aimée. Il m'appelle mon fils bien-aimé. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas délaissé. Jésus est mon frère. Et la Bible dit que je suis co-héritier de l'amour de Dieu et des grâces de Dieu en Jésus-Christ. Alors j'aimerais conclure ce matin. Nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui dirige sa mission. Nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui conduit ses disciples à aller trouver des hommes et des femmes et à leur dire, peu importe nos différences, Dieu vous aime. Peu importe ton statut social, Dieu t'aime. Peu importe tes convictions pour le moment-là, Dieu t'aime. Et il m'a placé sur ton chemin pour que je te le dise. Il t'aime à un point qu'il a donné Jésus, son bien-aimé fils, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, tu peux mettre ton prénom à la place. Afin que quiconque, oui, c'est pour toi aussi, et je veux te le dire ce matin. Ça ne s'arrête pas à Gabriel ou à David. Ce matin, tu peux te lever. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, j'accepte. Et si on allait plus loin, non pas dans une conversion émotionnelle, mais le nuque éthiopien, parce qu'il avait cheminé, parce qu'il lisait l'écriture, parce qu'il cherchait le sens, Philippe n'a pas attendu de faire un an de préparation au baptême. Il lui a dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Eh bien, si le Seigneur te pousse ce matin, depuis tu cherches, ça fait un an que tu te tâtes, tu y crois, mais tu ne sais pas et tu te dis, oh, j'attendrai encore. Eh bien, voici l'eau. Je ne sais pas si on aura d'autres habits de rechange, mais voici l'eau. Voici l'eau, je suis sérieux. Veux-tu recevoir ton baptême au nom de Jésus-Christ? Veux-tu le confesser comme Seigneur et Sauveur personnel? Ça peut être le point de départ de ta vie avec le Christ. Alors nous te baptiserons et nous t'accompagnerons à approfondir ta relation avec Jésus. Mais ne le fais pas sur la base d'une émotion. Fais-le si comme le nuque éthiopien, tu dis, je le crois de tout mon cœur. Enfin, Gabriel nous a dit le puzzle, enfin j'ai compris, il m'aime, ce n'est pas un doctorat. Je ne serai jamais assez bien pour être digne du baptême. Je n'aurai jamais tout mis en règle pour être digne du baptême. Ça, ce sont des faux raisonnements. Je suis pécheur. Mais le Christ est mort pour moi. Et c'est ça la grâce. Il m'appelle et je veux le dire. Et ce matin, tu peux le dire. On n'a pas l'habitude de le faire. Il y a 8 personnes qui sont en préparation au baptême. Elles seront baptisées en avril. Elles cheminent. Mais j'ai à cœur ce matin de te dire, peut-être tu es celui-là. Peut-être tu es cette tenue que tu obtiens. Je ne peux pas lire ce passage et ne pas ouvrir cette opportunité. Veux-tu le baptême ce matin au nom de Jésus-Christ? Veux-tu venir aux eaux ce matin? Viens ma sœur. Applaudissons pour Charlotte.